Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Avec au sommaire aujourd'hui le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle, Der Vertrag von Aachen, auf Deutsch.
C'est ça, avec une nouvelle responsabilité franco-allemande. C'est ainsi que le président Macron a voulu présenter ce traité de coopération et d'intégration signé mardi avec Angela Merkel à Aix-la-Chapelle. Effectivement, signal politique à 4 mois des élections européennes, mais pour dirigeants eux-mêmes en lutte dans leur propre pays. Bonjour Hélène Millard de la Croix.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation germanique à la Sorbonne. Auteur, ça va nous intéresser, du défi européen de 1963 à nos jours. Défi qui passe par le couple franco-allemand. 56 ans, jour pour jour, après le traité de l'Élysée. C'est ce nouveau texte relativement court. 28 articles, mais 15 projets prioritaires. On en reparlera. Très vite conclu, il y a un an par les deux parlements. Est-ce que ça en fait un traité pour le symbole de circonstances ou ça témoigne d'une volonté pragmatique selon vous ?
Oh, ça ne s'exclut pas. On peut aussi avoir le symbole et une volonté pragmatique. Je crois qu'on est très clairement dans une volonté pragmatique qui a un contexte perçu comme de plus en plus menaçant pour le projet européen. Or, on sait que le couple franco-allemand s'est conçu dès le début et même dès 63 comme étant le cœur et le moteur du projet européen. Et il y a une urgence aussi parce que dans les deux pays, les dirigeants sont un petit peu secoués, ballottés. Ils auraient l'un et l'autre préféré que ce traité fût signé il y a un an. Il aurait été moins attaqué. Mais là, bon, on peut peut-être le prendre comme un défi face aux obstacles.
Alors, il y a un an, justement, c'était le Parlement français, il me semble, qui le premier validait l'idée de ce traité, qui avait plus ou moins été énoncé dans le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Donc là, c'était fin 2017, où il insistait sur la sauvegarde de la souveraineté. Est-ce que ça veut dire que c'est un traité qui a principalement été porté par les instances françaises et la volonté du président ?
Alors on le présente volontiers comme ça. Il a une genèse qui va un petit peu plus en arrière, parce que l'idée de faire un nouveau traité de l'Élysée, c'est-à-dire en fait de l'adapter aux défis du temps présent, parce qu'en 1963 il y a des tas de sujets et de questions qui n'existaient pas, ça a déjà été lancé par François Hollande dans la campagne de 2012. Il n'y a pas eu du tout de réponse allemande, parce que l'Allemagne attendait que la France fasse des réformes. Et puis, en effet, Emmanuel Macron, dans le discours de la Sorbonne en septembre 2017, a clairement dit qu'il faut faire un nouveau traité de l'Élysée, et ça a été perçu en Allemagne comme une main tendue. Simplement, l'Allemagne a été pendant des mois à la recherche d'un gouvernement, et ça a d'ailleurs été reproché à la chancelière par ses opposants, de dire vous ne savez pas saisir le moment important. Alors, entre les deux, c'est vrai, les parlements étaient très actifs, et la relance de cette idée a été portée par un groupe de députés français et allemands qui, en effet, ont mis sur pied une coopération entre les deux parlements qui est absolument inédite, qui n'existe pas, qui va être annoncée ces jours-ci et qui ont donc signé un accord avec la création d'une assemblée parlementaire de 100 députés qui vont essayer d'être à la fois une force de proposition pour rapprocher les législations entre les deux pays et puis un peu une force de contrôle qui va peut-être donner au Parlement français un petit peu plus de pouvoir par rapport à l'exécutif.
Ouais, vous avez raison de le souligner, c'est pas la moindre des innovations institutionnelles, on pourrait dire, juste encore une fois sur le rapport Angela Merkel-Emmanuel Macron. C'est vrai que même une fois la coalition formée l'année dernière, quand même Emmanuel Macron était venu à Berlin, où il s'était quand même un petit peu accroché avec Angela Merkel. On sentait que Angela Merkel bloquait sur l'idée d'un budget commun. D'ailleurs, on voit que dans le traité, c'est un peu léger, ces questions de budget. Est-ce que vous pensez que c'est un traité qui est parvenu à un compromis, disons, sur ces questions et qui souligne justement le compromis atteint ?
Oui, comme toujours, les compromis, les traités sont des compromis, chacun fait un pas vers l'autre. Quand on lit un petit peu entre les lignes, on voit que dans un certain nombre d'endroits, l'Allemagne a fait des concessions, en particulier en insistant sur les notions de solidarité européenne dès le préambule. En effet, pour autant, un certain nombre des propositions très ambitieuses qu'avait faites Emmanuel Macron dans le discours de la Sorbonne sont peut-être allées à un horizon très très lointain, puisque en Allemagne, on a beaucoup bloqué sur le budget de la zone euro. Et je dois dire que les événements en France actuellement porte beaucoup d'Allemands à considérer qu'ils ont bien raison d'être très circonspects dans une solidarité budgétaire et que finalement il y a des cultures sociales tellement différentes qu'il faut un petit peu ralentir le pas.
D'ailleurs, il est deux fois question seulement de compétitivité dans ce traité, alors que c'était quand même le grand mot d'Angela Merkel l'année dernière, sauvegarde de cette compétitivité. D'un point de vue historique, il y a aussi eu deux renforcements de ce traité ou de deux ajouts sous Kohl Mitterrand et puis sous Schröder Chirac en 88. En quoi justement, alors, puisqu'on parlait des innovations institutionnelles, il y a là un renforcement réel des structures de coopération?
Alors le renforcement des structures de coopération tient à la partie institutionnelle qui prévoit une accélération et un approfondissement des dispositifs que l'on avait déjà mis en place sous De Gaulle et Adenauer, qui étaient de rencontres et d'échanges, c'est-à-dire de présence dans les institutions du partenaire pour être le plus possible au courant des projets et des contraintes de l'un et de l'autre, de les intégrer dans sa propre stratégie et d'avoir finalement des positions communes. Il y a dans les ministères français et allemands, déjà depuis déjà une quinzaine d'années, des fonctionnaires qui s'échangent et qui travaillent comme s'ils étaient de la même nationalité. Là, l'idée est d'accélérer encore ce processus, alors avec des choses qu'on peut considérer comme un petit peu symboliques, mais quand même, il y aura donc non seulement des réunions des deux gouvernements, mais aussi la participation tous les trois mois d'un membre du gouvernement de l'autre pays aux réunions du gouvernement de l'autre. Je pense que c'est aussi plus bas qu'il faut voir les choses, parce que c'est aussi une façon d'appliquer l'esprit de De Gaulle et d'Adenauer de 1963, c'est-à-dire de permettre des échanges dans tous les niveaux de la société. Et ce traité insiste aussi beaucoup sur non seulement le local et le régional avec la coopération transfrontalière, mais aussi d'aller plus loin encore dans tous les dispositifs d'échange des sociétés civiles, la création d'un fonds pour financer toutes les initiatives de jumelage, de rencontres. Or, on sait que c'est ça qui a créé avec les années ce réseau très intense, non seulement de confiance et d'amitié, mais aussi d'une culture commune. Et quand on dit qu'Emmanuel Macron a fait tout seul tout ça dans son coin, c'est complètement faux. D'abord, ce n'est pas vrai, parce que comme on l'a dit, ça a été bien annoncé en 2017, les parlements s'en sont aussi saisis, mais parce que toutes ces propositions, quand on les regarde bien, c'est le résultat de la réflexion de tout ce tissu très dense dans différents espaces de la société civile, des villes, des jumelages, des amitiés franco-allemandes, mais aussi des universités, des cercles économiques, des chambres de commerce, qui ont donné des propositions et des idées qui tournent depuis des années et dont les conseillers du président n'ont eu qu'à se saisir pour en faire un texte proposé et élaboré surtout en bilatéral. C'est pas le texte d'Emmanuel Macron, ça a été fait en bilatéral avec l'Allemagne.
Et qui se manifeste, vous l'avez dit, dans les coopérations transfrontalières, également dans la création, plus diplomatique, de quatre instituts culturels franco-allemands qu'on dit intégrés à Rio, Palerme, Erbil et Bishkek, et puis cinq colocalisations d'instituts français et allemands, Cordoba, Atlanta, Glasgow, Minsk et Ramallah. Je cite toutes ces villes parce que c'est intéressant, on voit que c'est quand même des zones de crise et où l'Union européenne est plutôt en minorité. Il y a là une vraie volonté de revenir.
Il y a là une vraie volonté de revenir et de reprendre finalement le schéma qui existe depuis les années 70, je dirais, notamment avec Schmitt et Giscard, qui est, mine de rien, de faire à deux, de faire avancer les choses et de parler au nom des Européens qui n'arrivent pas à s'entendre. Et en effet, vous évoquez ces instituts culturels intégrés. Alors, ça peut paraître une petite chose qu'on ait un institut Goethe et un institut français dans le même bâtiment et qui travaillent ensemble et qui font des propositions dans des zones difficiles. Ça paraît peu important, mais ce sont en effet ces petits pas qui donnent aussi, non seulement dans la pratique, une habitude de travailler ensemble, mais aussi vis-à-vis du monde extérieur, une image de solidarité. Et c'est la même idée qu'il y a dans la coopération au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a été tellement l'objet de fantasmes, de fake news et de déclarations jouant sur les ressentiments et faisant peur aux Français en particulier. Il n'est absolument pas question, bien évidemment, que la France abandonne son siège permanent au Conseil de sécurité. Simplement, l'idée est, à la fois dans la conjoncture actuelle, de profiter de la présence de l'Allemagne comme membre tournant du Conseil de sécurité, mais aussi pousser une demande allemande depuis des années, qui est logique et qu'on peut soutenir, qui est de dire que si on demande à un grand pays, une grande puissance économique, de prendre des responsabilités internationales, il serait aussi logique, non pas de lui donner le siège d'un autre, mais de rajouter des sièges au Conseil permanent de sécurité.
Et avec une Allemagne qui est effectivement parmi les 15 non-permanents cette année, également présente désormais sur des théâtres d'opérations au Sahel et dans la coalition anti-Daesh. On reparlera de ses ambitions diplomatiques et également du projet de défense commune dans une prochaine émission. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos éclaircissements aujourd'hui. Hélène Millard-Delacroix, je le rappelle, professeure de civilisation allemande à la Sorbonne, et on renverra à votre livre également, Le défi européen de 1963 à nos jours, et ce n'est pas fini. Bonne journée.